Vivre FM.
Vivre FM.
Jusqu'à 11h.
Les spécialistes de Vivre FM, c'est vous.
Benjamin Moreau.
Carole Clémence.
Chaque jour, les spécialistes sont avec nous sur Vivre FM de 10h à 11h. Et aujourd'hui, c'est notre spécialiste Asso Solidaire, à savoir Carole, qui est avec nous. Carole, de quoi allons-nous parler et avec qui ?
Alors aujourd'hui, nous parlons des jeux dangereux. Des jeux dangereux joués par les adolescents, les enfants. Nous parlons de prévention, de formation, comment faire pour contrer, pour aider ces gens qui sont confrontés à ces jeux. On en parle avec l'association APEAS, qui est en pointe dans ce domaine. Sa présidente Françoise Cochet est avec nous autour de la table. On en parle avec Pascal Degerman, qui est intervenante pour l'association en Ile-de-France. On en parle tout de suite, Benjamin, dans l'association Solidaire.
Les assos solidaires, l'association APEAS, tout de suite au micro de Carole Clémence, jusqu'à 11h.
Les spécialistes association solidaire
sur Vivre FM
avec Carole Clémence.
Pascal Degerman, bonjour.
Bonjour.
Françoise Cochet, qui est la présidente d'APEAS. Alors APEAS, on n'a pas vraiment expliqué ce que c'est. APEAS, ça signifie accompagner, prévenir, éduquer, agir, sauver les personnes qui sont aux prises avec des jeux dangereux, donc les enfants et les adolescents. C'est bien ça, Françoise ?
Oui, bonjour à tous. Effectivement, notre association a l'un des objectifs très importants de prévenir dans les classes les enfants par rapport aux jeux dont ils nous parlent, et qui peuvent être plus ou moins dangereux, et parfois extrêmement dangereux.
Donc ce sont des jeux qui coupent la respiration, la personne se trouve en apnée cérébrale.
Alors ça, c'est l'une des parties des jeux dangereux qui nous sont cités par les enfants. Ce sont les jeux que nous appelons les jeux d'évanouissement, pour provoquer un évanouissement forcé. Soit ils pratiquent une apnée excessive, qui les met forcément en danger, vu qu'ils dépassent les limites tolérables par l'organisme, mais aussi des manipulations sur le corps, au niveau du sternum ou au niveau du cou, qui provoquent une diminution de l'oxygénation du cerveau et qui provoquent un évanouissement. C'est l'une des catégories des jeux dangereux. Après, il y a tous les jeux violents et autres jeux dont les enfants nous parlent.
Il y en a plusieurs, on en reparlera tout à l'heure. Je voulais qu'on commence par l'actualité, puisque vous avez une actualité. Il y a en ce moment un colloque mondial au Brésil, auquel vous allez participer, mais depuis Paris.
Oui, par vidéoconférence, oui.
C'est-à-dire que APEAS est en pointe dans le domaine de la prévention des jeux dangereux, c'est ça, au niveau mondial ?
Absolument. Nous sommes en France, malheureusement, hein, c'est pas une gloire, les premiers à avoir alerté publiquement l'opinion publique par rapport à ces pratiques. Et les autres pays ont suivi quelques années plus tard. Par exemple, les États-Unis ont commencé à réussir à passer l'information en 2005. Le Brésil, c'était l'année dernière. Donc vous voyez, c'est leur deuxième colloque international qu'ils organisent. Nous y étions l'année dernière. Cette année, nous intervenons donc par Internet, mais nous serons quand même écoutés par 500 personnes réunies dans la salle aujourd'hui même et demain.
Puisque vous êtes venu ce matin exprès pour notre émission, mais cet après-midi, vous serez en direct sur Internet, sur Skype
avec
ou je ne
sais.
Voilà,
avec
et vous répondrez aux questions d'experts.
Absolument.
D'experts mondiaux.
C'est un colloque qui réunit des professionnels et des experts. Oui, tout à fait, comme nous l'avions fait en France d'ailleurs. En France, à Paris, nous avions organisé deux colloques internationaux, l'un en 2009 et le second en 2014. Et nous avions aussi des experts qui étaient venus du monde entier, des parents de victimes également. Voilà.
Pardonnez-moi de vous interrompre. Qui sont les experts, justement ?
Alors, ce sont des médecins, ce sont des psychiatres, ce sont des sociologues spécialistes des conduites à risque. Ce sont des psychologues aussi, bien sûr, et puis des personnes qui sont engagées au niveau de l'éducation. Donc les sciences de l'éducation sont très impliquées dans cette réflexion internationale sur ces jeux. Maintenant, il y a aussi les chercheurs qui font des enquêtes au niveau des enfants, des adolescents et des jeunes, pour essayer de comprendre comment, pourquoi, etc., et quelles sont les conséquences, évidemment. Mais notre actualité de cette semaine, si vous permettez, et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas partis au Brésil, c'est la réunion nationale et même européenne des familles de victimes que nous organisons chaque année pendant 3 jours dans le sud de la France. Et donc, nous serons réunis là-bas et nous ne pouvions pas être à la fois en France et au Brésil.
Cette réunion dans le Luberon, qui peut y aller? Est-ce que des auditeurs qui sont confrontés au problème des jeux dangereux peuvent s'y rendre?
Ce sont les parents de victimes, c'est-à-dire qui ont eu un enfant qui a été handicapé, plus ou moins profondément, suite à ces jeux dangereux, ou des parents qui ont perdu un enfant suite à ces pratiques. Donc nous, dans l'association, on a des parents qui ont perdu un enfant depuis les années 70. Vous voyez, des cas très anciens, comme des cas très récents, notamment le dernier en date, c'est de la famille qui a pris contact avec nous. Ça datait d'il y a 2 mois, quoi. Il y a 2 mois, en région parisienne, un enfant est mort, enfant de 11 ans.
C'est très récent. Oui. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que ces jeux dangereux touchent beaucoup de gens? Est-ce qu'on a des statistiques?
Alors, des statistiques réelles, non. Mais par contre, nous pouvons comparer les cas qui nous remontent chaque année.
Essayez d'être bien devant le micro, Françoise.
Nous pouvons comparer les chiffres des cas qui nous remontent chaque année. Donc nous constatons depuis 2 ans une baisse notable du nombre de cas de décès qui nous sont signalés. On est passé parfois de 20, certaines années, 20-25 cas à 4-5. C'est quand même
une différence
importante. Donc même si ça n'a rien de scientifique, nous pensons que toutes les actions de prévention, d'information et de formation des professionnels ont payé. Ont payé, c'est notre objectif, évidemment, sauver des vies. Donc voilà, on n'a pas fait tout ça pour rien.
Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ces jeux dangereux, notamment le jeu du foulard depuis octobre 2000. Vous aviez lancé cette alerte vous-même en octobre 2000 et créé l'association APS 2 ans plus tard. Pourquoi est-ce qu'on n'en entendait pas parler avant, puisque ces jeux existaient?
C'était un sujet extrêmement tabou. Donc il y avait des cas tous les mois, en France et ailleurs dans le monde, mais personne ne voulait en parler parce qu'on avait trop peur de risquer d'inciter d'autres enfants à faire ces expériences. Voilà, même les professionnels ignoraient tous ces accidents et aucune publication n'a été...
Bien devant le micro, François.
N'a été publiée, n'a été divulguée, enfin n'a été faite même, avant 2000 sur ce sujet. Il n'y a rien. Voilà, depuis 2000, enfin, les professionnels s'intéressent au sujet. Et donc, voilà, on a...
Et cette crainte...
Le sujet, disons. Mais on est loin d'avoir avancé comme il faudrait.
Cette crainte d'inciter, enfin de donner l'idée aux enfants de pratiquer ces jeux, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle était infondée?
Oui, elle est réelle si on parle aux enfants d'une façon non organisée par rapport à ces pratiques. Il y a une méthodologie de prévention que nous avons mise au point, qui est validée par le ministère de l'Éducation nationale d'ailleurs et la Santé, et qui a fait ses preuves. On ne parle pas aux enfants n'importe comment de ces pratiques.
Qu'est-ce que ça veut dire non organisé, Françoise?
Ça veut dire dans le désordre, faire discuter avec les enfants en leur expliquant certaines pratiques et en leur disant seulement « c'est interdit, tu peux en mourir ». Ne fais pas ça. Ça ne sert à rien et c'est tout à fait incitatif. Par contre, faire parler d'abord les enfants des pratiques qu'ils connaissent ou qu'ils ont vues ou qu'ils ont faites et ensuite échanger après avec eux en interactif sur les conséquences pour le corps de telle ou telle de ces expériences dont ils ont parlé, sachant que le corps humain ils connaissent très mal. Ça, on constate ça à chaque fois dans les classes, l'anatomie, la physiologie, ils ont une très mauvaise connaissance de ce problème-là, de ce fonctionnement-là. Donc nous échangeons avec eux du fonctionnement normal du corps humain et de tout ce qui va entraîner un dysfonctionnement de ce corps humain au niveau des conséquences du handicap. Et avec les enfants, nous insistons sur le handicap. Parce que
le handicap, ils connaissent, et
ils n'ont pas envie de risquer de devenir handicapés d'une minute à l'autre pour un jeu, vous voyez, qui est différent d'une maladie, d'un accident, bien sûr, vous savez bien ce que c'est que le handicap.
Bien sûr.
Voilà, donc les enfants sont très sensibles à ça, beaucoup plus qu'à la mort.
Jusqu'à 13h,
Vivre FM, c'est vous,
Benjamin Moreau
et Carole Clémence.
Aujourd'hui, nous parlons des jeux dangereux avec l'APEAS qui est invitée de Carole Clémence.
Oui, nous avons sa présidente avec nous, Françoise Cochet. Nous avons également Pascal Desgerman, intervenante pour l'association Sur en Ile-de-France. Et puis, nous avons au téléphone Christine Carry. Alors Christine, bonjour.
Bonjour
Christine.
Je vous remercie d'être en ligne. Je sais que vous avez passé toute la nuit à l'hôpital à travailler. Vous êtes aide-soignante.
Oui.
Vous menez des actions de prévention pour l'association.
Oui.
Et vous êtes également une maman de victime.
Oui, c'est ça. Tout à fait.
Alors, je voulais avoir votre témoignage dans ce cadre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvée maman d'une victime?
Dans quelles circonstances? Eh bien, mon fils a pratiqué ça à l'internat, donc il y a 16 ans. Et nous l'avons découvert après son décès, en fin de compte. C'est un camarade qui est venu nous dire qu'il pratiquait ce jeu donc à l'internat la nuit, dans le parc. Donc voilà, et ça a été un choc.
Il avait quel âge?
Il avait 16 ans, 16 ans et demi. Donc ça a été un choc et j'ai essayé de comprendre. Je suis tombée sur un article, donc à l'époque j'étais sur Lyon, et je suis tombée sur un article d'une maman qui témoignait de la mort de son fils sur l'Arbrelle, qui est à côté de Lyon. Et quand j'ai lu son histoire, j'ai lu la mienne. Donc il y avait un petit numéro de téléphone, j'ai appelé, je suis tombée sur Françoise, qui à l'époque donc était sur Nice. Et nous avons échangé, et après ce coup de fil, donc j'ai eu une chaîne de parents qui m'ont appelé au niveau national. Et quand je me suis aperçue de l'ampleur de, parce que je ne connaissais pas du tout ces pratiques, et quand j'ai découvert l'ampleur, j'ai dit on ne peut pas ne rien faire et que nos enfants ne soient pas morts pour rien, et on a voulu alerter et prévenir. Voilà.
C'était quand? C'était il y a quelle année?
C'était le 10 août. Alors mon fils a fait ça le 10 août 2000, j'étais présente, hein, c'est moi qui ai fait le massage cardiaque. Donc il est resté 7 semaines dans le coma parce qu'il venait de manger, donc il a inhalé ses aliments et il est mort d'une infection pulmonaire puisque en réanimation ils ont aspiré les bronches, bronchioles, mais il est resté des particules qui se sont infectées et donc il est mort d'une infection pulmonaire. Mmh. Et il est resté 7 semaines dans le coma. Voilà.
D'accord.
Et donc il est décédé donc le 25 septembre 2000.
Est-ce que vous avez trouvé du soulagement moral, une certaine aide avec APEAS?
Ah ben, disons que l'APEAS était même pas créé. C'était au tout début. Il y avait Françoise et puis moi, d'autres mamans, Anne Becker. Voilà, on était un petit groupe et on s'est réunis et on a essayé de. Enfin, nous, on est partis comme des victimes. On pensait être entendus. Et les seules personnes qui nous ont entendus au départ, c'était les médias. Donc on a contacté les médias et après c'est remonté jusqu'au ministère et là après, bon je résume hein, parce que il y a plein d'étapes entre, mais et les ministères nous ont reçus et voilà. Et on avait toujours cette idée que cette prévention allait être prise en charge par des personnes de l'éducation nationale, style inspection académique, qu'ils allaient mettre en place des formateurs, mais en fin de compte c'est nous qui faisons les préventions depuis 16 ans. Bon, il y a eu quand même des avancées au niveau de certaines académies, mais ça reste encore un terrain fragile.
C'est vous-même.
Il n'est pas toujours bien à l'écoute.
C'est voilà. Vous-même, Christine, maman de victime, vous êtes aide-soignante et vous menez vous-même des actions de prévention.
Tout
aujourd'hui.
À fait. Pendant mes jours de repos, oui. Enfin, je mène des actions sur demande des chefs d'établissement. Je ne vais pas dans les écoles, je fais pas du tupperware. Quand je fais une prévention, c'est toujours dans l'urgence. Les préventions sont toujours faites dans l'urgence.
C'est-à-dire
les chefs d'établissement s'aperçoivent qu'il y a des pratiques dans leurs écoles. Et donc, ils contactent le site APAS. Et donc, comme sur le site APAS, il y a les délégués des régions, donc ils nous contactent et ils nous appellent. Ils disent, est-ce que vous pouvez venir très rapidement, quoi. Voilà. C'est toujours dans l'urgence parce qu'il y a des chefs d'établissement donc, qui prennent leurs responsabilités et qui font des préventions parce qu'ils ont conscience de la dangerosité que est en train de vivre leur établissement. Et il y a des chefs d'établissement qui font l'autruche et qui ne disent rien.
Est-ce que vous souhaiteriez que cette prévention fasse partie des programmes scolaires, par exemple ?
Tout à fait. Non seulement des programmes scolaires, mais aussi au niveau des écoles d'enseignants. Qu'il y ait un temps pour tous les futurs enseignants, qu'il y ait un temps d'explication de ces jeux d'hypoxie en particulier et de tout ce qui est harcèlement. Parce que, bon, j'avais vu une émission sur le harcèlement qui, pour moi, se rapproche beaucoup aussi des jeux d'hypoxie parce qu'il y a certains enfants où on leur fait de force. Donc, c'est aussi de l'harcèlement. Mais l'harcèlement n'est pas... je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Parce qu'on ne voit que la partie de l'iceberg, mais la partie de l'iceberg qui est en dessous est énorme. Et voilà, il y a du boulot. Il y a du boulot.
Vous intervenez sur des enfants qui ont quel âge ?
Alors moi, j'interviens principalement sur maternelle primaire.
À si petit, à 3 ans, on joue à des jeux dangereux ?
Alors, à partir de 4 ans, oui. Oui, on joue alors particulièrement au jeu de la tomate en primaire.
C'est-à-dire ?
Alors le jeu de la tomate, il y a deux jeux. Il y a le jeu de la tomate qui est un jeu de ballon. Et l'autre jeu de la tomate, c'est le fait de bloquer sa respiration pour devenir tout rouge comme une tomate. Donc ça reste purement un jeu. Et donc ils bloquent leur respiration. Et à un moment donné, donc si l'enfant veut faire le jeu jusqu'au bout, c'est très dangereux puisqu'il va tomber en syncope. Donc c'est là où les enseignants s'aperçoivent, parce que quand l'enfant tombe, il se fait mal. Et donc les autres disent « Ah, mais il a encore joué au jeu de la tomate ». Voilà, et ça part comme ça en fin de compte.
Et ça amène des séquelles qui peuvent être irréversibles ?
Alors oui, des séquelles irréversibles, oui, et des accidents aussi au niveau de la chute, voilà. Et puis la pratique aussi après, quand on est un peu plus grand, la pratique régulière de ces jeux.
Et quand même, ce ne sont que des séquelles, j'allais dire. Hein. Parfois, c'est la mort au bout du chemin.
Oui, oui. Mais la mort intervient surtout si l'enfant est seul, qu'il refait ça seul, hein, dans un lieu, peu importe le lieu. Surtout, les décès sont vraiment, quand ils sont un petit peu plus grands, on a des décès d'enfants de 8 ans, mais ça ne s'est pas. Les décès sont passés vraiment à l'extérieur de l'école. Parce que le problème, c'est qu'ils refont ces jeux seuls, et quand il n'y a personne autour d'eux, et ben c'est très difficile pour les secourir. Voilà.
Merci Christine d'être intervenue. Je sais que vous avez passé toute la nuit à travailler et vous nous avez quand même répondu ce matin, vous avez fait cet effort.
C'est tellement important, il faut tellement que les gens comprennent que la prévention, c'est vraiment la chose principale et indispensable dans les écoles. C'est faire de la prévention. Les enfants sont capables de tout comprendre quand on leur explique rien. Voilà, il faut expliquer, il ne faut pas que ce soit tabou. Enfant, on lui explique comment fonctionne sa respiration. Après, je peux vous assurer que l'enfant ne repratique plus. Et les enfants sont très éveillés à l'heure actuelle et connaissent beaucoup, beaucoup de choses.
Merci Christine.
Beaucoup plus de choses qu'on le pense.
Merci voilà. Christine, merci d'être intervenue, merci infiniment.
Merci à vous d'avoir fait cette émission.
On continue de parler des jeux dangereux, de leur prévention, et des parents qui peuvent peut-être même aider, sans doute même aider ses enfants, les enfants à mieux comprendre, en plus du personnel enseignant. On parle de tout ça après une pause musicale sur Vivre FM.
Jusqu'à 13h,
Vivre FM, c'est vous,
Benjamin Moreau
et Carole Clémence.
Aujourd'hui, nous parlons des jeux dangereux et de leur prévention avec l'association APEAS et Françoise Cochet et Pascal Desgermanes avec nous au micro de Carole Clémence.
Oui, Françoise Cochet, on vient d'avoir au téléphone Christine Carrie, maman de victime, aide-soignante, qui mène des actions de prévention. Vous en menez vous aussi, mais Pascal Desgermanes, vous en menez également. Vous menez des actions dans les établissements scolaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites concrètement dans ces établissements?
Alors, quand je mène des préventions auprès des enfants en école primaire et au collège, et là, en ce moment, je fais beaucoup dans les centres de loisirs des écoles primaires. C'est-à-dire que je fais des interventions avec un jeu qui s'appelle le jeu Jouraki, auprès de petits groupes d'enfants.
Donc, jeu qui a été créé par l'association?
Voilà, oui, qui a été créé par l'association, par le conseil scientifique.
C'est-à-dire, ce jeu, qu'est-ce que c'est?
Alors, le but du jeu, c'est de faire vivre un petit bonhomme qui, au départ, n'a rien pour vivre. Donc, on sensibilise les enfants. J'ai un petit trou.
Comment ça se passe concrètement, oui?
Comment ça se passe concrètement? Bon, avec un petit groupe de 12 enfants autour du jeu, il y a une planche avec un petit bonhomme où
on leur montre l'anatomie de
voilà ce dont il a besoin pour vivre. D'accord.
D'accord.
Donc on pose des questions.
Il y a quatre équipes. Il y a quatre équipes avec quatre petits bonshommes. Chaque équipe jette un dé et avance sur les cases, sur le plateau du jeu. C'est un peu le genre de jeu de Trivial Poursuite, voilà, voyez, c'est un peu ce genre-là. Lorsqu'il tombe sur une case de couleur, l'animateur du jeu, qui est un adulte, comme Pascal par exemple, va lire la question tirée par l'enfant qui correspond à la couleur de la case sur laquelle il est tombé avec son petit bonhomme. Et là, ils répondent à la question. Une fois qu'ils ont répondu correctement à la question, l'équipe va mettre un jeton sur le petit bonhomme central, sur les organes vitaux de ce petit bonhomme, et l'équipe qui a gagné, c'est celle qui a rempli le plus vite tous les organes.
Qui a sauvé tous les organes vitaux de l'enfant,
mais le petit bonhomme. Il y a quatre couleurs de questions qui correspondent à quatre thématiques dont Pascal va parler.
Alors, il y a la thématique... La thématique du jeu, il y a la thématique du corps, la thématique premier secours et la thématique philosophie, voilà.
D'accord.
On explique à l'enfant son anatomie, qu'il doit prendre soin.
Au préalable, on a fait une prévention pour expliquer comment le corps humain marche
et fonctionne
et ce qu'il ne faut pas faire pour que ça arrête de fonctionner.
C'est-à-dire?
Bon, c'est-à-dire, je vais citer un exemple, par exemple, quand on joue à faire des croche-pieds à ses camarades et que le camarade tombe sur la colonne vertébrale, il peut y avoir une incidence. Quand on s'empêche de respirer, il peut y avoir aussi une incidence sur le corps, puisque le cerveau fonctionne moins bien. Enfin, il y a tout un processus d'explication auprès des enfants, sur l'anatomie.
D'accord. Et donc, lorsque vous jouez à ce jeu, vous avez des enfants qui vous disent « Moi, je joue à retenir ma respiration ?»
Ah ben, au préalable, il y a eu une prévention, donc où il y a eu un moment de parole pour les enfants. Donc ça, je le connais par avance. Mais en faisant le jeu, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte jusqu'où ça peut aller et que le corps, on a besoin de tout pour bien vivre. Il ne suffit pas du cerveau. Le cerveau tout seul ne fonctionne pas. Le cœur tout seul ne fonctionne pas. Enfin, que tout est lié. Donc, par rapport à ça, l'enfant se rend compte, même s'il n'en a parlé, que de pratiquer certains jeux, ça peut être très dangereux pour lui.
Mmh. Les enfants n'ont pas conscience des dangers de retenir sa respiration. Quels sont les jeux dangereux qui sont pratiqués justement en primaire, puisque vous intervenez sur la primaire?
Ce qu'il y a comme jeux dangereux, il y a les jeux de non-oxygénation, comme le jeu surtout le jeu de la tomate en primaire.
On retient sa respiration le plus longtemps possible.
Voilà, c'est ça. Il y a aussi... Et le sac en plastique sur la tête,
je vois
ça aussi, voilà. Se tirer sur la capuche, c'est pas anodin non plus, parce que ça coupe la respiration. Jouer avec une corde à sauter autour du thorax, jouer au cheval, comme ils disent, et là aussi ça peut provoquer...
On compresse
le sternum, donc ça peut aussi provoquer. Jeu du sandwich où on s'empile les uns sur les autres. Parfois, ils sont à 4, 5, voire 6 enfants. Donc, celui qui est en dessous, eh ben, il est, pareil, il est très
oppressé.
Écrasé,
bien sûr. Écrasé. Opprimé, oppressé.
Voilà, exactement. Et il y a des malaises par rapport à ça. Enfin, j'en citerai des dizaines et des dizaines.
Il y en a énormément. L'imagination est débordante.
Et débordante, hein. Débordante.
Hein. Ça, c'est pour les petits, mais vous...
Pour les petits, ça va jusque... En primaire, ça va jusque quand même des enfants de 10-11 ans. Donc,
c'est ça, mais vous parliez de jeux tout à l'heure en antenne. Je ne sais pas si vous voulez en parler maintenant, mais des jeux pour les plus grands. Vous parlez de cette application. C'est maintenant qu'on peut en parler ou pas? Cette application sur c'est ça, cette application.
On vient d'en parler, c'était
c'est
le jeu...
C'est celui-là, d'accord.
Voilà, c'est le jeu, mais ça, moi, je le pratique surtout au niveau des nouvelles activités périscolaires. Les mairies font appel à moi pour faire de la prévention au niveau des nouvelles activités périscolaires. Et là, c'est bien. Si dans toutes les écoles, il pouvait y avoir ce genre de prévention, à ce moment-là, il y aurait beaucoup d'enfants qui seraient informés. Mmh. Mais bon, ce n'est pas le cas.
Mais déjà, il y a un mieux, puisqu'on constate de moins en moins d'accidents graves. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, Françoise Cochet. Si vous voulez vous parler, il faut bien vous mettre...
Je voudrais juste dernier mot, que par rapport à ce jeu, ça plaît énormément aux enfants. Et la prévention passe encore mieux. C'est-à-dire qu'il y a eu la prévention avant orale. Mais le fait d'appliquer avec ce jeu, eh ben, les enfants repartent et aiment beaucoup ce jeu, moi, par séance, au niveau des nouvelles activités périscolaires. Et les enfants demandent à revenir une séance d'après. Et quand ils ne peuvent pas revenir, ben ils sont déçus. C'est un jeu qu'ils aiment beaucoup.
Et alors, est-ce que vous constatez, est-ce qu'on vous fait part de choses positives après votre départ ?
Oui. Souvent, j'ai des retours des écoles qui m'envoient en me disant que depuis que je suis venue, qu'il n'y a plus ce genre de pratique dans les écoles. Les enfants ont plus conscience, et même par rapport à la violence, ça apaise un peu, je ne dis pas que je vais tout arrêter d'un coup, mais au moins ça apaise un petit peu les
enfants. Ça fonctionne réellement, et ça n'a pas l'effet inverse d'inciter les gens à faire des choses dangereuses.
Je n'ai jamais eu, ça fait 5 ans, 6 ans que je suis là, je n'ai jamais eu un retour comme quoi les enfants avaient pratiqué après mon passage. Si jamais ça l'était, je ne le ferai pas. Moi, je suis pas là pour inciter les enfants.
Évidemment.
Voilà, c'est un sujet tellement sensible que si jamais j'avais, une fois on me disait que les enfants avaient pratiqué derrière, c'est que vraiment j'aurais mal fait mon intervention.
Ouais. Et moi, je confirme depuis 14 ans que l'association existe, pas une fois on a eu un cas d'incitation par nos préventions, suite à nos préventions. Donc, la conclusion, c'est que notre action est véritablement de santé publique. Elle permet de sauver des vies. Elle permet aussi de sauver des enfants d'un handicap profond qu'ils risquent avec ces pratiques. Nous avons créé des outils, de multiples outils. On ne vous a pas parlé de tout, vous verrez sur notre site.
Mais on va continuer d'en parler,
si vous voulez. Non, mais ma conclusion, vraiment, c'est qu'on a besoin d'aide. On a besoin que l'État s'investisse plus, que les formations se fassent plus et que toute la transmission de nos données soit reprise par des professionnels. C'est pas possible de laisser encore longtemps, tant d'années, des bénévoles tels que nous, des parents de victimes, continuer à se battre alors que tout ça, ça pourrait être pris très facilement par l'État. Excusez-moi, c'est mon petit coup de colère.
Jusqu'à 13h,
Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau.
Carole Clémence, nous avons encore une dernière intervention de nos invités, de vos invités, qui représentent l'association APEAS.
Oui, Pascale Desgermann, intervenante pour cette association dans les écoles, dans les centres de loisirs, et puis la présidente d'APEAS, Françoise Cochet. Françoise, on en a parlé, mais je voudrais qu'on revienne un tout petit peu, parce qu'au tout départ, en octobre 2000, vous étiez toute seule, vous avez été touchée, votre enfant a été victime d'un jeu dangereux, et vous vous êtes retrouver toute seule à essayer d'agir.
Ben, c'est-à-dire, je ne pouvais pas faire autrement. Nous découvrons notre fils mort dans sa chambre un matin, debout sur ses pieds, alors qu'il était en pleine forme la veille au soir, et la police nous explique qu'il est mort d'un jeu dangereux dont nous n'avons jamais entendu parler. À partir de là, nous avons interrogé ses camarades, les cousins des cousins, les enfants des cousins le jour des obsèques. Et là, nous constatons qu'il y a un grand nombre d'enfants, d'adolescents qui ont fait ce même jeu qui a tué notre fils. Donc, que faire ? Appeler les médias. Donc là, j'ai pris mon téléphone et j'ai finalement, ça n'a pas été facile, mais réussi à faire passer l'information à la une du Figaro.
Vous étiez toute seule ?
Bah oui, forcément, je ne connaissais pas d'autres familles de victimes. Mais à partir de cette alerte, tout de suite, dans les jours qui ont suivi, d'autres familles m'ont contactée. Voilà comment ça a commencé.
Ça fait boule de neige.
Et nous n'avons créé l'association qu'en 2002, avec toutes les familles de victimes déjà réunies, avec des professionnels qui nous conseillaient déjà.
Alors, ces jeux dangereux existent depuis toujours, depuis l'Antiquité.
Oui.
Et on n'en parlait pas avant.
Non. Et pourtant, nous savons qu'il y avait des morts tous les mois. Ça a été décrit par Plutarque, donc du temps de la Grèce antique. Vous voyez que ce n'est pas récent. Et par Jean Giono en 1947, dans son livre « Faust au village ». Et également, il l'évoque dans son livre « Jean le Bleu ». Donc, vous voyez que ce n'est pas récent. Et nous connaissons des cas de décès en France de début du 20e siècle, dans les années 1900, entre 1900 et 1910. Donc voilà, c'est pas récent du tout.
Et il n'y a pas eu d'augmentation de ces jeux au cours du 20e siècle?
Ah ben ça n'a pas été étudié du tout. Oui.
On ne sait pas.
Du tout, du tout. Non, rien n'a été étudié. C'était tabou, 100% tabou. Par contre, le tabou... La non-information sur ces pratiques a tué nos enfants, vous voyez ? Parce que moi, dans mon cas particulier, le jour où mon fils a appris ce jeu par un copain à l'école à Nice, il m'en a parlé. Si j'avais su, il serait vivant, mon fils, aujourd'hui.
Et aujourd'hui, vous agissez et vous faites baisser le nombre de ces cas.
Nous supposons que notre action a permis de faire baisser les chiffres. Attention ! On n'a pas d'études scientifiques, mais nous comparons les chiffres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est tellement différent, le nombre de cas de décès aujourd'hui par rapport à avant, que nous supposons que ce sont les effets bénéfiques des préventions qui permettent ce résultat très favorable.
Justement, on va parler de prévention, on en a parlé, mais un parent qui constate que son enfant ne va peut-être pas très bien, qui peut supposer que son enfant pratique des jeux dangereux, comment peut-il être sûr? Comment savoir?
Alors là, je vous coupe la parole tout de suite, parce que l'enfant peut aller très bien. Samedi dernier, j'étais en conférence en région parisienne. Un directeur d'école a confirmé tout, en tout point ce que j'ai expliqué par rapport à ces jeux. Lui-même a joué au jeu du foulard quand il était petit. Et il a dit que ça concerne des enfants tout à fait bien dans leur peau. Ils n'ont absolument pas conscience du risque. Et ce sont des enfants parfaitement ordinaires qui sont concernés. D'où l'importance de la prévention généralisée. Après, vous avez aussi des enfants qui vont mal et qui peuvent faire ça. Mais il ne faut surtout pas croire que ces jeux ne concernent que des enfants qui ont des problèmes. Pas du tout. Voilà.
Vous parlez d'enfants, mais on ne fait pas la même prévention à l'adresse des adolescents, puisque vous le disiez, de jeunes adolescents également peuvent s'adonner à des jeux dangereux.
Oui, jusqu'à 20 ans, 21 ans.
Alors justement, dans l'association, est-ce qu'on ne réagit pas de la même façon, j'imagine? Vous avez des interventions dans des écoles, dans des collèges par exemple, dans des lycées?
Le principe de base est exactement le même. Quel que soit l'âge, on donne d'abord la parole aux enfants, aux adolescents, aux jeunes, et à partir de leurs témoignages, on échange avec eux sur les conséquences. Bien évidemment qu'avec un jeune qui est en prépa, classe prépa ingénieur, on ne va pas leur parler de la même façon qu'à des enfants qui sont en grande section de maternelle. Mais le principe est exactement le même. Les mots sont adaptés à l'âge et à l'enfant, de manière à ce qu'il comprenne et qu'ensuite il puisse lui-même placer ses limites et gérer ses jeux dangereux avec les gamins, avec les copains, par rapport à l'alerte, et ils se protègent les uns les autres. C'est beaucoup mieux que d'interdire, parce que jamais vous n'allez surveiller un enfant 24 heures sur 24, y compris dans les toilettes de l'école. Voilà. Donc il faut que l'enfant ait une certaine maturité par rapport à son corps humain, à sa physiologie et à tout ce qui peut détraquer totalement son corps d'une minute à l'autre, comme à la piscine par exemple, quand on fait de l'apnée excessive, ce qui est strictement interdit dans toutes les piscines de France par règlement et que pratiquement tout le monde ignore. Sauf que tous les mois, vous avez des gamins qui font des arrêts cardiaques sous l'eau, pas que des gamins, des adultes aussi, parce qu'ils ignorent le risque. Et arrêt cardiaque dit destruction du cerveau. Quand vous les réanimez, si le cerveau est déjà en partie détruit, l'enfant va rester, ou l'adulte, va rester handicapé à vie, ou en tout cas avec des séquelles. Donc voilà, ces informations-là, personne ne les a, personne ne sait pourquoi c'est dangereux, et c'est notre rôle de le faire connaître.
Voilà, et votre site regorge d'informations, votre site c'est jeuxdufoulard.com, jeux du foulard au singulier.
Les symptômes, je vous coupe la parole, maux de tête, un enfant qui a très mal à la tête, très violemment, et ce mal de tête disparaît et revient, ça peut provenir de tous ces jeux d'apnée, d'asphyxie, de strangulation, etc. Les douleurs à l'oreille, des taches rouges à fleur de peau ou dans le blanc de l'œil, ou une baisse brutale de l'acuité visuelle, parce que ces jeux entraînent des éclatements de micro-vaisseaux sanguins qui peuvent se trouver aussi au niveau de la rétine et faire baisser de manière très importante la vision. Ces symptômes-là sont reliés directement par les ophtalmos à ces jeux dangereux. Il peut y avoir aussi des questions qui tournent autour de ces pratiques, des bruits sourds dans la chambre, des traces au niveau du cou, du sternum. Mais vous verrez tous ces symptômes sur notre site internet. Tous les parents de France, et d'ailleurs, doivent connaître ces symptômes pour pouvoir éventuellement les repérer à temps. Contrairement à nous, qui les avons vus, ces symptômes chez nos enfants. Moi, je suis pharmacien de formation, d'autres parents sont médecins, ont perdu leur enfant parce qu'ils ignoraient ces
Françoise,
symptômes.
Justement, pour ne plus ignorer tous ces symptômes, pour ne plus ignorer tout ça, rappelez-nous l'adresse de votre site internet.
jeuxdufoulard.com.
Très bien.
Jeuxdufoulard au singulier. Com.
Merci Françoise Cochet, merci Pascal de Germaine d'être venu nous parler de votre association et des jeux dangereux.